Bonjour, c'est Jérémy Villet. Je suis photographe animalier. Je photographie des animaux dans la neige. Et depuis 10 ans, je me balade un peu partout où il y a de la neige à essayer de voir des animaux. J'ai sorti un premier livre qui s'appelle « Première neige » il y a maintenant 5 ans. Et là, je suis content de vous présenter un deuxième livre qui s'appelle « Hiver dernier » qui rassemble plein de photos que j'ai faites les derniers hivers. Et je vais essayer de vous raconter l'histoire de certaines de ces photos. Dedans, il y a à peu près 70 photos d'animaux que j'ai pris dans des jours un peu particuliers, des jours blancs, où le ciel et la neige renvoient la lumière, on ne sait pas trop où on est. Et c'est des photos qui sont sans retouche, c'est-à-dire que j'ai rien enlevé, rien rajouté, j'ai pas changé les couleurs, j'ai juste cadré en carré. Et ces photos, je les ai tous rassemblées dans ce livre. Elles ont toutes des histoires différentes, même si on a l'impression qu'elles viennent d'un même rêve, d'un même moment. Ce qui est particulier sur les photos, c'est qu'elles n'ont pas de... Il n'y a rien d'autre que l'animal. Il y a la neige, mais la neige, elle efface un peu tout. Il n'y a pas de rochers, il n'y a pas d'arbres. Ça ressemble beaucoup à comment tu verrais un animal après l'avoir aperçu dans la nature. Et que tu y repenses, que tu fermes les yeux, tu verrais juste... dans l'espèce de neige de ton rêve ou de tes yeux fermés. Tu verrais juste un animal apparaître comme ça. J'ai fait exprès de laisser des pages blanches pour créer des respirations et aussi parce que c'est curieux de mettre tous ces animaux dans le même livre. J'ai passé beaucoup de temps à les chercher. Et donc je trouvais ça cool de les étaler un peu dans le temps avec les pages, comme tout ce temps à attendre assis dans la neige. Maintenant, on va ouvrir le livre et je vais essayer de vous raconter les histoires des images. Au début, ça commence avec une photo où on voit juste la neige avec plein de couches différentes qu'on aperçoit tout doucement. Ça ressemble un peu à des gens allongés sur la plage ou à quelque chose de très simple et assez sensuel aussi que la neige donne très vite. Ça pourrait être des montagnes, ça pourrait être du sable. On ne sait pas quelle taille ça fait. On ne sait pas trop s'il n'y a pas un animal caché dedans, mais c'est juste de la neige.
Page 9, patrouilleur.
Après, à la page 9, il y a des chocards à bec jaune. Alors, il y a encore quelques traces dans la neige, c'est comme des lignes. En fait, c'est des digues de rizières en Himalaya. Et la photo a été faite depuis une falaise en attendant la panthère des neiges. Et juste à gauche de la falaise, il y a un monastère avec des novices tibétains qui étaient en train de jouer au foot. Je me souviens qu'ils criaient dans tous les sens et ça se mélange aux cris des chocards.
Page 10, antenne.
Là, on voit des bouquetins, un jeune bouquetin et un vieux mâle, dont on voit juste les cornes apparaître dans la neige. Je voulais commencer par des bouquetins parce que c'est les animaux que je vais voir en premier dans la neige. Souvent, ils n'aiment pas trop la neige, c'est pas comme les chamois, ils n'ont pas des pattes qui arrivent à se lever très haut pour marcher dans la neige, ils n'aiment vraiment pas la neige. Mais aux premières neiges, ils se font souvent surprendre sur les plateaux avant de redescendre dans les vallées. J'aime bien cette photo parce qu'elle parle du début de l'hiver.
Page 12, escadre.
À gauche, il y a des mergulnins, c'est des passereaux. C'est des tout petits oiseaux qui vivent en Arctique et qui nichent sur des falaises. Et en fait, ce qui est beau, c'est que là, il y avait de la neige dans le sol. Et quand on prend des photos d'oiseaux avec le fond de ciel, si on veut que le ciel soit gris, c'est les nuages là, ou blanc, ça va surexposer les oiseaux, ça va faire entrer trop de lumière sur leur corps qui va être, on dit cramé, mais il va être un peu effacé par l'exposition de la lumière. Et là, c'est l'inverse. En gros, il y a la neige au sol qui renvoie la lumière sur les corps. Et ça fait comme un studio ou un diffuseur de lumière. Et ça permet de faire cette photo. On sait pas trop, en fait, dans quel sens ils sont, ni ce que c'est. Ils volent en escadre. C'est vraiment des petites escadrilles qui arrivent de la mer et qui rejoignent la falaise. Mais c'est des oiseaux tout petits comme des moineaux, un peu.
Page 13, mannequin.
Là, à droite, la photo du canard pilet s'est prise avec un téléobjectif au milieu d'un lac gelé au Japon. Et là, il vient de se poser avant d'aller dans une arrivée d'eau chaude pour boire et manger. sous un volcan, il y a un lac gelé. C'est des oiseaux qui viennent de Sibérie et qui migrent en France ou aussi à l'est du Japon, au nord du Japon. Et là, il vient d'atterrir. Si on regarde bien de très près, on voit ses deux yeux qui sortent sur les côtés, deux petits points noirs. J'aime beaucoup cet oiseau. C'est un de mes canards préférés. Il a la queue en virgule, la tête avec ses deux lignes blanches qui croisent pile l'endroit où le cou est plus fin. Donc on dirait que ça se découpe complètement. Donc, je suis allé tout l'hiver dernier au Japon et spécialement pour eux presque.
Page 15, polar.
Là, on voit juste des yeux, peut-être une truffe aussi, et puis même des poils tout autour. C'est un renard polaire. Alors ça, c'était un peu le rêve de voir un renard polaire dans un jour tout blanc. Cet hiver différent, je suis parti en van depuis chez moi pour aller faire des photos en Norvège. Je le raconte d'ailleurs dans un autre podcast, dans les baladeurs face à face polaire. Il n'y a que cette fois-là où j'ai réussi à les voir dans le tout blanc, parce que c'est des animaux qui vivent la nuit, qui sont super durs à voir. Et là, cette fois, en fait, un soir en rentrant à ma tente, la nuit, dans ma lampe frontale, j'ai vu des traces toutes fraîches alors qu'il avait neigé toute la journée, ça veut dire qu'elles avaient moins d'une demi-heure. Et plutôt que de les suivre, ce qui allait m'emmener derrière le renard polaire à suivre toute sa balade de toute la nuit, je les ai pris à contresens, ce qui est assez dur à faire psychologiquement de suivre un animal à contresens parce qu'on s'éloigne de lui. Mais en fait, comme il venait de commencer, lui, son activité, comme il vit surtout la nuit, et ben ça m'a amené au bout d'une heure à suivre à contresens. Alors avec un GPS qui enregistre ma trace, parce que tu te perds en deux secondes. Et c'est drôle parce que les traces la nuit, quand tu les éclaires avec la frontale, au lieu d'être des points noirs dans la neige blanche, ça devient des points blancs dans l'immensité noire, parce que ça reflète super bien la neige, les trous. Et à un moment, les traces, elles vont tout droit sur une bosse. Alors je sais pas trop si ça monte, ça descend à ski. Mais c'est très euphorisant de skier la nuit. Parce que tu vois pas où tu vas, t'as l'impression d'aller très vite, ce que tu vois pas derrière toi. C'est très agréable. Et d'un coup, la trace disparaît dans un trou, justement. Et c'est son terrier. Donc là, tout de suite, je mets un point sur mon gros GPS et je rentre à ma tente. Et le lendemain, un peu tard dans la matinée, pour qu'il ait le temps de rentrer et tout, je suis retourné là-bas. Et toute la journée, j'ai attendu devant le terrier. Il est ressorti tard le soir. Il m'a regardé et puis il est parti vivre sa vie. Puis un autre est sorti, puis un autre. En fait, il y avait toute une portée de jeunes de l'année d'avant, dont trois tout blancs. Il y en a des blancs et des marrons. Là, il y avait des blancs, ce qui est assez génial. Et là, le surlendemain, j'ai refait la même chose. Je me suis mis devant le terrier, mais loin, à 50 mètres, 60 mètres. Ce qui paraît proche dans un endroit aussi immense. Mais au moins, ils sont tranquilles, ils n'ont pas peur. Il y en a un qui est sorti, il faisait très beau, et puis il s'est mis à jouer autour du terrier, puis d'un coup il s'est endormi. Et là, il a commencé à faire moins beau, ce qui a permis de faire cette photo toute blanche. J'aime bien parce qu'on distingue le pelage en entier, mais comme si c'était un peu un nuage de... On ne sait pas si c'est pas un mirage. Ce qui est exactement ce qui se passe quand on voit un renard polaire, on le voit toujours le soir un peu, ou on ne le voit jamais, on croit le voir quand c'est une boule de neige. Et même quand c'est vraiment lui et que c'est vraiment une photo, je trouve ça cool qu'on se demande encore si c'est pas un mirage.
Page 17. Pointillé.
C'est un lagopède. Un lagopède des saules. Il a des pattes incroyables. On dirait qu'il a des poils. Il a vraiment plein de plumes sur des énormes pattes. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on m'a envoyé des photos faites au bord d'une station de ski en me disant « Regarde, il y a des traces de lièvres et des renards ». En fait, c'est des traces de ces petits oiseaux, les lagopèdes, qui ont des énormes pattes pour pouvoir marcher dans la neige. J'aime bien cette photo parce qu'on voit justement ces traces, ce qui est rare sur mes photos. C'est rare de pouvoir voir les traces et d'avoir une photo avec la lumière diffuse. Là, c'est un peu entre deux.
Page 19. Coucou.
C'est le premier ours polaire que j'ai vu. C'était le jour de mon anniversaire. Et c'est la première fois que je vois un ours polaire et c'est une femelle. Alors elle s'appelle Svetlana. Et c'est une femelle qu'un ami a beaucoup suivi et filmé. On l'a revue après. Moi, je l'ai vue. Le premier jour où je l'ai vue, elle a attaqué un troupeau de rennes. Et c'est une des rares ours polaires à attaquer des rennes. Et elle en a fait sa spécialité. Et là, elle joue dans un évêt, une grande tache de neige. Elle dégringole et elle remonte. Elle fait la luge et tout. Et donc, c'est un des seuls endroits où elle était dans un endroit tout blanc. J'aime bien qu'elle soit petite. Il y a un truc avec les ours polaires où on voudrait les prendre en grand. Mais quand on les voit, en fait, on voit juste un tout petit point blanc dans l'immensité de l'Arctique. Et après, on l'a sur un plus petit bateau. Je suis parti avec Florian Et on l'a cherchée pendant plusieurs jours et on a fini par la revoir. Et notamment, elle était sous un trou de respiration de phoque. C'était très beau parce qu'elle, on voyait ses deux yeux qui reflétaient dans le trou. Et sur l'eau qui était dans le trou, elle était au milieu de la banquise. Et elle était juste assise avec les deux pattes et sa tête posée sur ses pattes à attendre que le phoque sorte. C'était vraiment magnifique.
Page 21, porcelaine.
C'est un oiseau qu'on voit souvent en France. C'est la grande aigrette, qui est un oiseau qui est vraiment, vraiment tout blanc et qui reste tout blanc toute l'année. Et là, elle est dans un petit trou d'eau, dans une rivière. J'aime bien parce qu'on voit la neige qui remonte sur les bords. Ça fait comme de la porcelaine un peu. Et puis la diffusion de la lumière sur son cou, le relief. Il y a quelque chose à observer, un grand oiseau blanc dans la neige qui est complètement irréel, on dirait un dessin, une estampe un peu, puis il y a une matière, on ne sait plus si c'est de la neige ou de la plume ou de la porcelaine. Et le reste du temps, on la voit dans des champs ou dans des roseaux ou dans des étangs où elle apparaît toute blanche. On voit qu'elle, et là, ce jour-là, elle était complètement invisible. Il y a juste son bec, et son bec, elle le met souvent vers le bas. Là, elle avait vu un autre oiseau qui volait, donc elle lève la tête, mais la plupart du temps, on ne la voyait pas du tout.
Page 23, damier.
C'est une chouette arfan, une femelle. Les femelles, elles ont un damier de noir et de blanc sur les plumes. Et contrairement à mes autres photos, on voit quand même des reliefs sur la neige. Il avait fait doux et ça avait fondu et ça fait de la gondole. Ça fait comme des petites... La neige gondole, elle fait des formes comme s'il y avait des petites rivières sous chaque ligne de neige.
Page 24, jumelles.
Alors là, c'est deux jeunes femelles mouflons de dalle, qui sont des grands mouflons blancs. C'est dans le blizzard, il fait très froid. Il y a du givre sur leur pelage. Et ça, c'est deux femelles de dos qui se mettent face au vent et qui ne bougent plus pendant des heures. Et ça donne cette photo, on dirait un peu des jumelles, avec leurs petites cornes un peu.
Page 25, tenue d'hiver.
Alors là, c'est un lièvre variable. C'est un animal que j'ai beaucoup cherché aussi, en Norvège et en France. Il y en a dans les Alpes, c'est une relique de l'ère glaciaire. En fait, c'est un animal qui vivait un peu partout sur Terre il y a plus de 10 000 ans. Il est variable, il change de couleur. Il devient marron l'été et blanc l'hiver. Alors avec le réchauffement climatique, il est un peu embêté parce que du coup, comme il y a moins de neige, il est visible pendant une partie de l'année. Ce qui le rend un peu en danger parce que les aigles peuvent l'attraper ou tous les prédateurs le voient. Et c'est aussi un animal qui subit le réchauffement climatique de plein fouet parce qu'il vit de plus en plus haut en altitude maintenant pour réussir à retrouver encore les températures auxquelles il est habitué. Mais la nourriture, elle, évolue moins vite que lui. La nourriture qu'il mange, qui est très spéciale, elle peut pas monter aussi vite que lui en altitude au fur et à mesure du réchauffement. Donc ça fait partie comme des lagopèdes, qui est aussi un lagopède, la perdrix blanche. Une relique de l'ère glaciaire, c'est un animal qu'on ne connaît pas, qui est près de chez nous, mais qui est beaucoup plus menacé encore que l'ours polaire ou les manchots. On l'appelle l'épus timidus en latin, parce qu'il est tout le temps caché. Donc c'est tout le temps sous un rocher, par exemple, ce qui est compliqué pour faire une photo. Et là, en fait, il était en train de sortir d'un rocher, il y a un rocher juste à gauche. Et il a fait juste trois pas pour aller se dégourdir les jambes, et il va se remettre sous son rocher. Donc là, j'ai choisi un axe. Et je le vois pas, il est sous le rocher. Si je sors la tête, il me voit, il sort plus. Donc il faut que je me retienne de regarder s'il est toujours là, parce qu'il peut être passé parti derrière. Donc je reste assis toute la journée, et puis d'un coup, je vois deux petits pinceaux noirs qui sortent, puis une tête en entier, et c'est un lièvre variable.
Page 27, Smoke Signal.
Alors ça, c'est une photo qui est assez surprenante. C'est pris au nord du Canada, au Yukon. Et c'est un renard qu'on appelle croisé. C'est entre le renard argenté qui est tout noir et le renard roux. Du coup, il a du noir sur le visage, sur les oreilles, sur tout le plastron avant, sur les pattes. Et ça lui donne un regard hyper puissant. Et là, en fait, il me suit. C'est dans un endroit qui est pas très loin d'une route où il y a juste une route qui est la Dempster Highway. Il y a des camions et il y a ce renard qui suit cette route, parce que c'est l'endroit où il peut marcher, où il n'y a pas 4 mètres de neige. Il y a vraiment un truc bizarre où tous les animaux sauvages dans cette zone n'ont pas peur des humains, parce qu'il fait super froid et qu'ils veulent aller voir les renards, toutes sortes d'individus vivants. Donc s'il y a des loups, ils vont aller voir s'ils n'ont pas laissé des restes. Donc à ce moment-là, ce n'est pas grave qu'un renard vienne nous voir. Et c'est pas on ne le met pas en danger, c'est logique, on fait partie des grands prédateurs ou des grands animaux, des grands mammifères, nous. Et il vient voir si on n'a pas laissé un truc qui traîne. Ou... Du coup, lui, il vient me voir tout le temps. Et il fait des. Moi, je descends dans la neige, que je vais aller marcher plus loin pour essayer de voir des lynx. Et ça fait des grandes traces dans la neige, et il me suit. Et du coup, quand je me retourne, il faut imaginer qu'il y a 3 mètres de neige. Et du coup, moi, je m'enfonce de 50 cm, ça fait une énorme coulée. Et il est dedans. Et il me regarde à travers. Et au fur et à mesure des virages, ça fait des. Il y a sa tête qui apparaît, puis parfois ses pattes, si c'est dans l'axe de la trace. Et donc, ça fait ce premier plan flou qui fait une forme. Et là, à ce moment-là, ça fait un peu comme un nuage de fumée. On a l'impression que lui apparaît dans une image projetée, dans un signal de fumée un peu. J'aime beaucoup parce que c'est un moyen de faire un portrait. Et puis il y a quelque chose d'un peu indien, un peu Première Nation. Il y a quelque chose d'un peu totémique, je trouve. Ce qui est exactement ce que je ressens là-bas, parce que c'est pris dans un territoire de Première Nation autochtone. Il y a juste des renards, des loups et des gens qui ont toujours vécu là. Et puis c'est un peu un esprit aussi, le renard, tu le vois apparaître et disparaître. Il te suit tout le temps, il te regarde intensément. Je trouve que là, il y a un peu tout ça dans cette photo.
Page 28. Sieste sur iceberg.
Ces deux photos qui ont un point commun, c'est qu'elles ont toutes les deux été faites sur des icebergs. À gauche, il y a des phoques qui dorment sous des icebergs. Et à droite, il y a deux manchots d'Adélie qui dérivent sur un tout petit iceberg qui bouge dans le ressac d'une baie en Antarctique. Celui de gauche, par contre, c'est en pleine mer. C'est un énorme iceberg avec une cathédrale. Et d'ailleurs, au même endroit, sur ce même iceberg, derrière, il y a une espèce de grande tour en pic. C'est un énorme iceberg. Le capitaine a été d'accord de faire un gros détour avec le bateau, ce qu'on le voyait au loin. Donc on a tiré des bords, enfin on a fait toute une navigation à la voile pour l'atteindre. Et moi, j'ai même négocié pendant des minutes pour qu'on y aille, parce que ça me paraissait si beau. Et dessus, il y a une première partie où il y a plein de phoques qui dorment. Alors on leur prête des caractères de dormeurs, mais c'est que le reste du temps, ils plongent à des centaines de mètres avec une pression incroyable. Ils dépensent une énergie que nous, on ne dépense pas dans une vie. Et du coup, après, ils dorment parce qu'ils sont obligés de récupérer. Mais nous, on voit que cette partie-là. Et les manchots, c'est pareil, on les trouve maladroits sur Terre, mais sous l'eau, ils nagent comme des requins. J'aime bien la photo des phoques parce que c'était une journée très douce, donc on voit juste les ombres sous eux et il y a quelque chose de très beau, un peu marbré dans leur pelage qui se, quand ils se retournent sur l'iceberg un tout petit peu, il y a une partie qui a collé à la glace, qui est toute lisse, ça fait des lignes et des formes différentes, en plus des nuances de leur pelage.
Page 29, retrouvailles.
Les manchots, il y a un truc très cool, c'est qu'ils étaient en train de discuter pour... Il y en a un qui tombait de l'iceberg, qui remontait. Alors, on ne va pas leur prêter des comportements humains, mais ils sont vraiment en train de communiquer pour savoir qui va tomber de l'iceberg, qui va rester sur l'iceberg et tout. On ne sait pas s'ils ne sont pas contents de se voir ou très contents, mais en tout cas, ils c'est de la diplomatie, quoi.
Page 30. Âge de glace.
Page 30, il y a un grand renne sauvage. C'est les derniers grands rennes sauvages d'Europe qui vivent sur les hauts plateaux norvégiens. Et c'est rare de les voir des rennes sauvages avec des grands bois dans la neige parce qu'ils les perdent au début de l'hiver. Et ça, c'était pareil en Norvège. J'étais resté 2 mois en passant de cabane en cabane à essayer de les suivre et de les voir aux premières neiges. Et ça, c'est un groupe de mâles qui dort. On voit la neige sur l'avant, les palettes des bois qui leur servent à gratter la neige. On voit qu'il reste de la neige coincée dessus. C'est comme ça qu'ils arrivent à soulever la neige pour manger le lichen. Il n'y a rien de plus préhistorique que de voir des rennes dans la toundra immense. À ce moment-là, il n'y a aucun marqueur de temps. D'essayer de comprendre leurs habitudes, de les suivre, j'ai vraiment la vie à ce moment-là d'un homme préhistorique. Il n'y a rien d'autre dans ma journée, sauf mon appareil photo, qui me différencie d'une vie de l'âge de glace, quoi. Et ça, c'est super agréable. C'est ce que je cherche aussi dans la neige. Et, comme si ma vie et la vie en général n'avaient pas de poids.
Page 33. Bleu jet.
C'est une photo que j'aime bien regarder, ce qui est rare de re-regarder ses propres photos. ça veut dire qu'elle est cool. Il y a un truc qui me dépasse complètement. C'est l'éventail des plumes des oiseaux, là. C'est vraiment fou. C'est des geais bleus. C'est des animaux qui vivent dans un endroit où il n'y a aucune couleur, qui est la forêt canadienne. Et donc, c'est un grand lac enneigé, ce que j'aime le plus pour mes photos, parce qu'il n'y a aucune trace au sol. Et c'est aussi une journée où il n'y a pas de soleil, donc il n'y a aucune diffusion d'ombre, tout est clair. On voit juste la neige qui gicle sous leur bec. Et puis il y a toute une histoire, il y en a un qui atterrit, il y a l'autre qui le regarde. C'est vraiment cool de réussir à mettre plusieurs animaux sur une photo. C'est le seul moyen que j'ai trouvé en photo de retranscrire le mouvement, parce que chaque animal donne un peu un mouvement général à l'image.
Page 35, Flamingos.
Ça fait partie des photos un peu surprenantes du livre. Alors, il n'y a aucune retouche. C'est des photos que j'ai faites il y a quelques années. J'ai dormi sur le parking d'un observatoire en Camargue qui s'appelle le Pont de Gau. On peut voir les oiseaux sans les déranger de très près. Il y a des pontons et sur le ponton, il y avait un tout petit peu de neige, mais rien du tout. Et en fait, allongé sur le ponton, ça faisait un premier plan blanc. Et derrière, il y a ce qui se passe quand il neige, c'est-à-dire... Il n'y a pas vraiment de nuages, il n'y a pas vraiment de ciel, mais il y a un côté très ouaté, tout blanc. Et il se trouve qu'en février, c'est la parade des flamands, donc ils étaient tous là en train de bouger dans tous les sens et se dresser. Il y a déjà quelque chose de cotonneux dans les flamands. Et puis c'est toujours surprenant de voir des animaux qu'on prête dans un imaginaire tropical dans la neige.
Page 37, tropical.
Encore un oiseau tropical, mais qui sont les perruches à collier. C'est des oiseaux qui sont invasifs dans les grandes métropoles européennes et un peu partout maintenant dans certaines villes de France. C'est des oiseaux d'ornement qui sont échappés de containers, notamment en Belgique, à l'aéroport de Zaventem, et qui ont réussi à se reproduire en ville, parce qu'en ville, elles trouvent des arbres, elles ont besoin de cavités dans les arbres. Elles trouvent aussi un endroit un peu moins froid qu'à la campagne. Et elles vivent en groupe, elles ont beaucoup d'énergie et elles profitent du réchauffement climatique pour vivre en Europe. Sauf que certains matins, il neige. Et là, c'était un matin de décembre. Et c'est dans le jardin du château de Versailles. Et il y a un ami jardinier qui mettait souvent le reste de son déjeuner ou des graines pour les oiseaux. Et un matin, il y avait de la neige. Donc c'est là que j'ai fait une photo de rouge-gorge aussi et puis de perruche. Là. Alors là, c'est un mâle qui est devant avec le collier et une femelle derrière. C'est un couple. Elles ont froid, elles sont toutes gonflées. Et la neige, encore, fait un effet de studio qui diffuse les couleurs.
Page 38, bisous.
Là, il y a des ramiers, des pigeons ramiers. Ça, c'est dans la ferme de mes parents. Pareil, c'est un oiseau qui est très beau. J'aime beaucoup cette photo, mais j'aimerais bien avoir aussi une photo où il y en a plein à l'envol, dans la neige, dans les champs, l'hiver, les ramiers qui migrent.
Page 39, flamme.
À droite, c'est des bois de rennes sauvages qui apparaissent dans la neige, tout givrés. Il y a un peu un chaud-froid parce que ça me rappelle des flammes, l'image. Là, il y a une double page blanche parce que je voulais qu'il y ait des moments de respiration et que moi, je passe beaucoup de temps à ne pas avoir d'animaux et je trouve ça cool quand même. Et de mettre des animaux à chaque page, on était un peu dans un safari et il y a quelque chose que j'aime beaucoup d'attendre ou de se demander où est-ce qu'ils sont. D'être un peu presque frustré de pas les voir, ça nous montre que bah, ils ont une vie, quoi. Ils sont pas là que pour nous. En fait, en photo, c'est très dur de retranscrire l'absence ou le côté caché ou le sauvage des animaux. Le fait qu'on les voit très rarement et que du coup on est très content de les voir. Bah, je voulais mettre des pages blanches pour retranscrire un peu ça, l'attente de l'affût un peu.
Page 43, nuancier.
Page 43, il y a un corbeau qui atterrit dans la neige. Et là, il y a un truc assez cool, c'est un angle un peu chanceux qui se joue à rien, à un degré près, où la lumière diffracte dans chacune de ses plumes et ça donne toutes les couleurs entre le bleu et le violet. Les corbeaux, on croit qu'ils sont noirs, mais ils sont pas du tout noirs. Ils ont des plumes qui reflètent la lumière de manière incroyable. La couleur, ça n'existe pas sur les plumes des animaux. Les plumes, elles nous envoient en fait une interprétation de la lumière.
Page 44, Pantone.
Alors là, il y a une pie à gauche. Pareil, la pie, elle a des couleurs complètement folles. De voir une pie, à chaque fois, je pense au tableau de Monet. Même si la photo ne dégage rien de ce tableau, mais il y a quelque chose de très hivernal pour moi dans les pies. Elles ont Je trouve qu'elles ont un truc dans les couleurs du bleu au vert et ce noir et blanc permanent. Même quand je les vois en plein été et tout, j'ai l'impression d'être un peu en hiver.
Page 45, demi-cœur.
À droite, c'est une bernache nonnette. C'est une bernache qui vit en Arctique. Et à chaque fois, je la vois. Alors là, je pense aux oies qu'il y avait chez moi. J'ai grandi avec des oies partout. Il y a des poules et des canards dans la ferme de mes parents. Et à chaque fois que je vois des oies dehors, j'ai l'impression d'être le petit garçon qui courait derrière les oies dans le jardin. Et je me souviens aussi de voir des oies sauvages passer au-dessus de la ferme quand j'étais petit. Alors parfois juste un petit groupe, mais des très grands groupes dont on entend d'abord le son pendant longtemps. On les entend cancaner, on les cherche dans le ciel. Puis au bout d'un moment, plus haut que là où on avait fait la mise au point, plus grand, plus loin que l'infini presque, on voit des chapelets d'oiseaux, plein de petits points. Et quand on est petit et qu'on voit ça, on a l'impression de, pour la première fois de sa vie, de voir quelque chose qui a vécu avant, après nous, et qui vit très loin de nous. Sur ces oies, elles arrivent de Scandinavie, elles partent en Espagne ou je sais pas où. Elles ont vu mille choses. J'ai l'impression que quand on est petit, c'est la première fois qu'on sort un peu de la bulle de sa vie d'enfant. Quand on voit des animaux sauvages, c'est trop beau.
Page 47. Clown triste.
Alors là, page 47, c'est un macareux sur la neige. Alors, il y a plusieurs photos de macareux dans le livre. C'est un animal que j'adore voir dans la neige, parce qu'on ne s'attend pas à les voir dans la neige. Mais quand ils reviennent, ils font des terriers, donc ils attendent que la neige fonde pour faire des terriers. Souvent, ils vivent dans les mers quand même du nord, et ils rentrent dans leurs endroits pour nicher, qui sont en Arctique quand même, là c'est en Norvège. Et ils attendent qu'ils se mettent sur une tache de neige. Ils attendent que la neige fonde pour faire leur petit terrier. Et puis ils ont toujours ce regard un peu qu'on prête triste ou de clown triste un peu. C'est un des premiers animaux que j'ai photographié dans la neige en partant de chez moi. Et je dormais dans un phare. Et dans le phare, il y a des fenêtres carrées. Ça s'appelle pas des hublots, mais des sabords quand c'est carré. Et je regardais toujours les macareux à travers cette fenêtre. Et c'était en 2014, c'était il y a longtemps. Et ça m'a donné envie de faire que des photos carrées. Je trouvais ça quelque chose de très simple dans la photo carrée qui fait oublier le processus de cadrage ou la culture du cadrage. Il y a quelque chose de face à face un peu qui est... On oublie le photographe.
Page 49, Fluffy.
Là, il y a une photo de lynx. C'était vraiment un rêve de voir un lynx dans la neige. Il y a quelque chose de... Enfin, c'est un des animaux les plus adaptés, en tout cas qui a un peu la même vie que moi à se balader partout et... J'aimerais bien être ce lynx. En tout cas, je me suis un peu inventé sa vie, à me balader d'arbre en arbre. Sauf que lui est super dégourdi, qu'il a des énormes pattes et qu'il saute 7 mètres pour aller d'un endroit à l'autre s'il veut attraper un truc. Ça, c'est un lynx du Canada. Mais en France, on en a qui sont au moins aussi beaux. C'est que des animaux qui sont d'une beauté incroyable. À tel point que ma photo, là, c'est juste de le prendre en photo. Il y a un truc qui est dans mes photos qui ressemblerait à ce un truc de débutant que j'ai gardé, c'est en fait, une fois que j'ai trouvé un angle blanc et que tout est bien et tout, j'ai juste à faire la photo tellement c'est beau dans la neige. Je crois que c'est une façon de rendre hommage juste à l'animal. Il y a plein de photos dans ce livre et dans le livre d'avant que j'ai faites en cherchant des lynx. Donc je lui dois aussi toutes les autres photos que j'ai faites en l'attendant. Même la couverture, les chamois, c'est en attendant le lynx, quoi. Le livre aurait pu s'appeler comme ça.
Page 51. Périscope.
C'est le même renard qu'on a vu au début, et là on le voit, il est sur la route, mais on ne sait pas que c'est la route, parce qu'il y a la neige partout. Il monte en fait, il remonte la bosse de la route déneigée. C'est à peu près ce qu'on voit quand on est en voiture, sauf que parfois il y a des piquets rouges pour savoir qu'on va tout droit, mais on ne voit rien d'autre.
Page 53, œil de jade.
C'est un cormoran huppé, et là il sort de l'eau. Il va devoir se sécher parce que les cormorans passent leur vie dans l'eau, mais n'ont pas des plumes étanches. C'est pour ça qu'on les voit pendant des heures en train de montrer leurs ailes ouvertes.
Page 55, à la fenêtre.
Page 55, une petite mésange bleue. Alors cette photo, elle me fait penser à une aquarelle que ma mère avait faite quand j'étais petit, qui est toujours chez mes parents. Il y a une aquarelle de mésange. Il y a quelque chose dans les photos, dans la neige et dans le cadrage et dans... La simplicité de voir des animaux dans la neige qui rappelle beaucoup l'aquarelle.
Page 56, meeting.
Là, on voit justement les macareux qui atterrissent sur la petite île enneigée. Ils volent un peu comme des perroquets, les coupes se forment et ils font des parades. Ils montent à deux dans le ciel et ils saccadent leur battement d'ailes. Ça fait comme une parade de perroquets un peu. Puis ils se reposent. C'est juste pour le plaisir de faire un truc à deux, genre une danse nuptiale mais en vol.
Page 57, cache-cache.
Et là, à droite, c'est un des jeunes renards qui est caché dans son terrier et qui sort. Il y avait un autre renard à gauche, là, il le regarde et puis il se recache, et il ressort, il joue.
Page 61, maquillage.
Ça, c'est un oiseau que je vois très souvent, qui est très dur à photographier parce que c'est rare de le voir de près. Là, il est tout près, il vient me voir. Il vient voir qui je suis, ce que je fais là. C'est un grand corbeau. À ce moment-là, j'avais moi aussi les cils tout gelés. Il fait moins 40. Et ce qui est marrant, c'est que dans cette photo, c'est la seule où il y a du soleil. Mais c'est du soleil qui dure une demi-heure. Je ne peux pas dire si c'est un coucher ou un lever de soleil. C'est tout au nord de l'hémisphère nord. Et il n'y a qu'une demi-heure de jour à peu près à cette période. C'est au mois de janvier. Et donc, on voit le soleil dans son œil. On voit aussi moi. Si tu regardes de tout près, il y a un tout petit point noir dans le soleil. Et c'est ma silhouette. C'est une photo où il fait très froid, mais qui est chaleureuse, parce que son plumage et la lumière est chaleureuse. C'est ça qui se passe en hiver. À ce moment-là, ce corbeau est en train de se réchauffer, mais il fait moins 40. Il y a quelque chose qui est très dur à retranscrire, que j'essaye de faire dans mes photos, c'est la douceur ou la chaleur relative qu'il y a en hiver avec la neige qui renvoie une lumière qui rassure et qui réchauffe. La douceur aussi de la neige quand on marche dedans et tout.
Page 63, solitaire.
Alors là, c'est un sanglier. Et ça, un sanglier à faire des belles photos, c'est un truc que j'avais jamais réussi. Je passe mon temps avec des sangliers. Je suis passionné par les cerfs. Et donc, à chaque fois que je veux voir des cerfs, je vais dans la forêt. Et qu'est-ce que je vois? Des sangliers qui viennent autour de moi, qui jouent. De voir des sangliers tout près, on se rend compte qu'ils vivent un peu comme une meute, une compagnie de sangliers, c'est une famille. C'est hyper social, c'est hyper farouche, c'est très intelligent. C'est très bruyant, enfin, il y a un truc... C'est un peu la colonie de vacances. C'est quelque chose qui ressemble un peu à nos vies aussi, dans celle des sangliers. Sauf qu'ils sont tout le temps cachés, ils vivent surtout la nuit parce qu'on les chasse. Ils sont dans des endroits sombres, ils sont sombres. Ils dorment dans les ronces, il y a tout le temps des objets autour d'eux. Et donc, pour faire une photo toute blanche, là c'était un matin d'hiver, je suis à l'affût au lynx entre deux falaises, dans une zone où parfois le lynx passe, il y a ces traces-là. Et ça forme une espèce de passage obligé entre deux falaises du Jura. Et un matin, le sanglier, il avait neigé énormément. Et là, le sanglier, il veut juste passer d'une falaise à l'autre. Donc, il est obligé de s'élancer dans une descente qui remonte derrière. Et là, c'est un peu au milieu de la montée-descente. C'est le seul endroit tout blanc pour moi. C'est le seul endroit où il n'y a pas la forêt derrière. Donc, je vis cet endroit depuis plusieurs jours. Et là, hop, il descend, il remonte. Et il est presque content de patauger dans la neige. Donc, ça lui donne... L'allure qu'on lui prête tout le temps, mais qui est dure à photographier, et puis on voit jamais son œil qui brille normalement. Là, il y a vraiment tout.
Page 65, parade.
Là, c'est un tétralière qui décolle. Tous les ans, je photographie des tétralières qui paradent dans la neige, dans un affût où je rentre la nuit et je reste pendant plusieurs jours sans jamais sortir. Il faut surtout pas les déranger. C'est des oiseaux qui paradent en haut des montagnes. Et je voulais faire une photo où quand ils sautent pour faire le beau. C'est un peu dur d'avoir le premier plan flou devant parce que soit quand il est au sol, je me mets mon appareil photo assez haut pour le voir et du coup quand il saute, il n'y a plus le premier plan devant parce qu'il est trop haut. Soit il faut faire une photo où je me baisse, je ne le vois plus et quand il saute, il y a le premier plan qui est sur la moitié de son corps. Du coup là, cette fois, j'ai pris le risque de mettre bas le matin, enfin la nuit. Du coup, à chaque fois qu'ils arrivent, je ne les vois pas, je ne les vois jamais, mais je les entends. Et je dois attendre le moment où il apparaît juste la tête déclenchée et ça fait une photo. Il y a ce premier plan un peu flou que j'aime beaucoup sur mes photos parce que ça donne une réalité à l'image.
Page 66, Curs.
Alors là, c'est un albatros. C'est le plus petit des albatros. C'est l'albatros à sourcils noirs. Il est si petit qu'il fait 2,50 m. Donc il est immense déjà. Et j'adore cet oiseau. Il a juste un œil comme un coup d'encre de Chine. C'est albatros à sourcils noirs. Et derrière, on aperçoit quelque chose. C'est un iceberg dans le blanc du ciel.
Page 67. Discret.
Et à droite, il y a un chat forestier qui est un animal qui a toujours vécu dans les montagnes et les plaines de France, avant qu'on aille chercher des chats pour l'ornement, pour notre compagnie. Et c'est un animal incroyable, qui malheureusement maintenant se s'hybride un peu avec les chats à raies, c'est les chats domestiques qui vivent à l'état sauvage. J'adore cet animal, c'est un animal hyper puissant et très beau.
Page 69, supersonique.
C'est une hermine. Normalement, les hermines sont toutes blanches en hiver. Et celle-ci, elle était restée avec un peu de marron sur elle. Elle vole au ras de la neige, elle passe d'une galerie à l'autre et elle vit sous la neige dans des galeries de micro-mammifères, de campagnols, de mulots, de surmulots qui vivent dans les prairies. Et là, en fait, elle court parce qu'elle va se dépêcher d'aller dans une autre cavité. Et elle n'aime pas trop être dehors parce que dehors, elle peut se faire attraper par les buses ou d'autres prédateurs. Et après, dès qu'elle rentre dans une galerie sous la neige, là, c'est elle, le prédateur. On entend parfois crier, elle poursuit les mulots de galerie en galerie. C'est un prédateur hyper puissant qui, d'ailleurs, sort parfois avec un mulot plus grand qu'elle.
Page 71, la ligne.
C'est un oiseau qui porte bien son nom. C'est une mésange à longue queue. Sauf qu'on lui a changé son nom il n'y a pas longtemps. Maintenant, ça s'appelle une orite à longue queue. Parce qu'on s'est rendu compte qu'elle appartenait pas vraiment à la famille des mésanges. Et alors, il y en a qui ont la tête toute blanche. Au Japon ou au nord du monde, il y a des mésanges avec, comme ça, mais une sous-espèce avec la tête toute blanche. Celle-ci, c'est celle qu'on connaît chez nous, qui vivent en famille. Elles arrivent par quinzaine. D'un coup, elles peuvent tous arriver dans notre jardin comme ça. Et là, c'est en Suisse, dans un petit affût que j'avais fait au-dessus d'un chalet. J'avais mis quelques graines pendant plusieurs jours quand il faisait très froid. C'est très rare de les voir au sol. C'est des oiseaux qui ne s'arrêtent pas de bouger. On imagine bien là qu'elle va repartir, rebondir, revoler dans tous les sens.
Page 72, surprise.
Là, il y a l'hermine qui est ressortie encore d'un autre trou. Dans le tout blanc, je vise un endroit. Elle rentre dans un trou, puis d'un coup, je la vois plus, mais elle ressort parfois derrière moi d'un autre trou. Elle est passée dans toutes les galeries. Puis au moment où je tourne mon appareil, elle re-rentre.
Page 74, pensif.
Alors là, on a un petit rouge-gorge, tout en boule à cause du froid. Quand je vois des rouges-gorges, ça me fait penser au jardinier. C'est vraiment l'oiseau qui vient voir le jardinier, qui se pose tout doucement à côté de lui, qui attend qu'il sorte sa binette ou sa bêche, qu'il sorte des gros morceaux de terre avec des lombriques ou des petits insectes. Et puis, il vole en rebondissant, il s'envole pas vraiment, il pousse sur ses deux pattes. Il vient tout près et puis il regarde ce qu'on fait. Un peu inspecteur des travaux finis, mais c'est cool d'avoir un compagnon.
Page 78, joueur.
Quand je fais des affûts dans la forêt, je vois tout le temps des écureuils, mais j'avais jamais réussi à les avoir dans la neige immaculée. Et ça, c'est l'an dernier, c'était dans le petit endroit où j'avais mis des graines pour les mésanges. Il y a un écureuil qui est passé, qui est venu voir et en manger quelques-unes. Il faisait très froid, c'était dans un versant ombragé d'une montagne en Suisse. Et ça, c'est un écureuil de montagne, et c'est des écureuils roux qui sont un peu plus sombres. Peut-être pour aller mieux avec les sapins.
Page 79, estampe.
À droite, il y a un canard pilet. C'est vraiment un de mes oiseaux préférés. Ça ressemble à une gravure à chaque fois, surtout dans la neige. Et là, il est en train d'atterrir. Il a des aérofreins en haut, des ailes. Il y a cet éventail de la queue, la virgule du bout de la queue, puis toutes ces nuances de couleurs. C'est complètement fou. Il y a vraiment une beauté qui est 10 fois plus belle que ce qu'on essaie de retranscrire en photo animalière. Et là, le but, c'est de faire une photo presque au niveau de cette beauté, parce qu'il y a une symétrie, il y a mille choses dans l'animal lui-même qu'on ne sait même pas voir, alors pour le photographier. Et là, en la regardant, après l'avoir faite, je découvre des nouvelles choses même.
Page 81, promontoire.
Alors là, c'est un goéland qui dérive sur un iceberg. Il se balade.
Page 83, bien caché.
Cette photo, elle raconte un peu l'histoire de ces dernières années où je suis toujours caché derrière la neige et un animal de l'autre côté. Et j'espère voir ses oreilles qui dépassent. Alors là, quand le lièvre, on voit ses deux oreilles de face, c'est bon signe. Parce que quand le lièvre nous a aperçus, il se met toujours de profil pour bien nous voir. Donc là, quand on est face aux deux oreilles, face à lui, c'est bon signe.
Page 85, prunelle.
Alors c'est une chouette, c'est au Canada, c'est une chouette épervière. Et là, en fait, elle est sur un piquet. Mais moi, je suis tellement allongé dans la neige que j'arrive à mettre du premier plan devant pour faire sortir que le haut de son corps et ses yeux. Et ça fait disparaître le piquet qui est sous elle, sans retouche, sans rien. Parce que quand je vais la regarder, moi, je vais voir que sa tête et ses yeux qui vont complètement m'hypnotiser. Mais en photo, il faut trouver un moyen de diriger le regard du spectateur pour lui dire ce que nous, on voyait sur le moment. Et la neige fait ça, elle dit « regardez les yeux ».
Page 87, irréel.
Alors là, c'est carrément la photo de couverture. Ce sont des chamois. Il y a 8 chamois qui sont au milieu d'une étendue de neige. D'abord, ça me fait penser à une étude. Les peintres, quand ils veulent s'entraîner à bien faire un sujet, une personne, un animal, un objet, ils le dessinent sous plein d'angles. Et à la fin, parfois, ça fait une œuvre en soi où il y a des croquis de plusieurs angles. Et en animalier, ça existe. Par exemple, un peintre qui va faire une bécasse, il va la peindre en vol, à droite. En bas, il va la faire juste sa tête, et puis une silhouette de dos, de trois quarts, de face, de profil. Et en fait, c'est des chamois qui ont peur d'un lynx qui crie dans la falaise. Et moi, depuis plusieurs jours, j'espère que le lynx, qui est tout près de moi, que je pourrais prendre en photo en me décalant dans les arbres, je me dis, mais il faut absolument qu'il aille dans le tout blanc. Et ben, les proies, elles savent qu'il faut se mettre en plein découvert, qu'il n'arrivera pas à courir vers eux sans se faire voir. Donc là, les chamois sont mis au milieu et ils regardent vers le lynx qui crie à droite. Cette photo, elle a un truc aussi, c'est qu'elle, c'est pas une horloge qui donne l'heure, mais elle donne du son. Il y a un truc des chamois qui écoutent et d'autres qui s'en vont. Il y a la menace un peu et puis ces silhouettes qui paraissent super agiles déjà. Et la diffusion de la lumière dans la neige qui est un miracle à chaque fois, ou un mirage là.
Page 89, Hello.
Alors ça, c'est au détour d'un affût, dans la neige. J'espérais photographier des jets bleus, je crois. Et sur le côté, comme ça arrive souvent, un animal qui sort la tête. Et là, c'est une martre. C'est comme une fouine, mais qui vit dans la forêt.
Page 91, douceur.
En fait, sur une photo, on n'arrive jamais à retranscrire toutes ces fois où je ne sais pas trop ce que je vois. Et ça arrive tout le temps dans la neige, on ne sait pas si c'est une boule de neige ou un animal. Et là, les signes, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça pourrait être de la porcelaine ou des boules de neige. Et en fait, c'est deux signes qui sont posés dans la neige, des signes qui migrent, qui font une étape. Là. On voit un peu le bout du bec, heureusement, de celui de droite. On aperçoit l'œil de celui de gauche, tout en bas à gauche. Et là, l'appareil photo arrive à faire la mise au point grâce aux pattes. Mais à peu de choses près, on n'aurait rien vu d'autre.
Page 92, Snow Dive.
C'est une scène de mulotage. C'est un mot qui est propre à exactement cette action-là. C'est un renard qui mulote. En fait, il entend un mulot ou un campagnol, une souris qui est sous la neige. Et il saute et après, il va avoir la tête dans la neige et il essaie de tomber pile à l'endroit où il a entendu les sons. Ouais, il a son oreille baissée pour bien entendre. La queue à l'arrière qui... Et là, exprès pour stabiliser son saut, il sert de sa queue là pour sauter plus loin ou moins loin, ou tenir en l'air. Il tend la queue au moment où il saute.
Page 93, confinement.
Et là, à droite, à la page 93, c'est une petite tête d'un cerf. C'est un jeune cerf qui est sur une plage enneigée, sur une île au Québec. Et... derrière, il y a la mer, enfin là on voit le ciel, et devant c'est du sable enneigé. J'aime beaucoup ces yeux qui sont entourés de blanc, et les oreilles qui dépassent, c'est quelque chose d'assez innocent chez les fans, c'est assez touchant à chaque fois, c'est pas juste un truc de Bambi. Les yeux, il y a vraiment un truc d'enfant dans les yeux et les oreilles.
Page 95, Snowbuck.
Alors là, c'est l'adulte de la page d'avant, c'est un cerf de Virginie, c'est au même endroit, c'est un mâle. Ils ont des bois avec une couleur un peu... Là, on voit bien qu'il a mis son oreille pile pour m'écouter, pour voir si qu'est-ce que je fais là. Les animaux, souvent, on voit sur les photos, ils ne regardent pas, mais ils gardent toujours leurs oreilles en direction de nous. C'est leur premier sens, souvent, c'est les oreilles.
Page 97, pupille.
Ça, c'est une vision dont je me rappelle très bien. C'est sur une falaise, il n'y a rien. Il y a juste la mer et la neige. Il y a des goélands. Et là, c'est un goéland qui fait sa toilette. Et je m'allonge à côté de lui. Et j'aime bien d'ailleurs m'allonger. Ça permet de mettre un premier plan et de mettre le ciel derrière les sujets. Mais c'est très agréable d'être allongé dans la neige. Et on voit juste son œil. Alors après, on voit son bec d'un coup. Je revois son bec apparaître, qui est tout jaune avec un point rouge au bout. Il y a vraiment un moment où on ne voit plus rien, même quand il met sa tête plus pour faire sa toilette, on ne voit plus son œil. On ne voit rien. Vraiment, il disparaît avec ses plumes. Elles renvoient la lumière de la même manière que la neige.
Page 99. Sirius Fox.
Alors là, c'est le petit renard polaire de tout à l'heure qui est sorti et qui va voir l'autre individu qui est à gauche. Et pareil, là, en fait, on se rend compte de la neige grâce à son mouvement. Comme quand on skie, en fait, on ne sait pas si ça monte ou si ça descend. Bah là, c'est pareil. En fait, on voit que la neige monte parce qu'il y a ses pattes qui nous donnent l'info de la hauteur.
Page 100. Marbré.
Ça, c'est une photo de Pigargue que j'ai faite dans un igloo. L'hiver dernier, j'ai construit un igloo dans lequel je suis resté une semaine. Et il y avait des pigargues qui venaient manger un cerf qui était mort. Et alors toute la journée, ils restaient là dans les arbres au-dessus de moi, à attendre que je fasse le moindre bruit. Je me souviens, la nuit, j'enlevais les emballages de ma nourriture que je coinçais dans les trous de l'igloo. Et la journée, il ne faut pas bouger parce que les aigles arrivent le matin et ils sont pas à l'aise au fait d'aller au sol, c'est dangereux pour eux. Quand ils arrivent à 9h, ils vont jusqu'à 16h. Et là, de 9 à 16, je suis assis dans un duvet, dans un igloo. Et au bout de 4 jours, ils ont fini par descendre. Et là, les premiers qui descendent, c'est les jeunes. Ça, c'est un jeune pigargue à la queue blanche qui descend sur le... À force d'être resté des jours à regarder un cerf, se faire manger par les renards, il finit par descendre et se poser au sol. Et là, j'aime bien parce que sur sa patte de gauche, on voit le premier plan de la neige qui arrive. Et toutes ces marbrures, c'est une phase de son âge. En gros, il est en train de muer. Il est jeune, il construit des plumes différentes chaque année. Et j'aime bien cette année-là où il a dû... Un peu de noir et un peu de marron et un peu de blanc, c'est très marbré.
Page 103. Défense.
Alors ça, c'est des animaux dont j'ai rêvé depuis enfant, des morses. Sur cette photo, on voit des défenses et puis des babines. Et c'est sur un glaçon au Svalbard, une colonie de morses qui dort. Donc sur un petit bateau, là, avec d'autres gens, on passe juste à côté d'eux et tout doucement. Là, ils lèvent la tête parce qu'ils se chamaillent entre eux pour avoir une place. C'est incroyable. Alors avec leur bouche, là, ils arrivent à sortir, à plonger super profond. Ils peuvent manger, par exemple, des moules. Ils vont aspirer à chaque fois, décortiquer chaque moule. On peut retrouver des centaines de fruits de mer dans un morse. Il n'y aura pas une coquille. Mais ça, on ne voit pas. Nous, on les voit juste dormir comme s'ils étaient un peu paresseux.
Page 104. Flocons.
Alors, c'est deux photos qui ont été faites exactement au même endroit. Et c'est pris depuis l'igloo qu'on voyait avant.
Page 105. Toucan.
Et à droite, c'est le pigargue de Steller, qui est peut-être le plus grand aigle du monde, qui a une envergure incroyable et un bec énorme. Et lui, il vient de Russie. Il vit sur les bouts de glace. Alors, c'est pas des icebergs, c'est des morceaux de banquise, donc de la mer gelée, de l'eau de mer gelée, qui dérive en fait des golfes de l'est de la Russie. Ça remplit la mer jusqu'au nord du Japon. Et eux, en fait, se posent sur les glaçons et dérivent et ils migrent comme ça. Ils pêchent dans l'eau, ils se reposent dessus comme des petits radeaux. Ils viennent parce qu'il y a un cerf depuis plusieurs jours. Et là, on voit ce bec énorme. J'aime beaucoup la neige parce que là, elle fait ressortir la couleur du bec, comme sur le renard.
Page 107. Partition.
C'est une photo qui a été faite pendant le voyage en voilier en Antarctique. Et alors, quand on va voir des manchots en Antarctique, du moins sur la péninsule, là, c'est des manchots papous. C'est quand ils se regroupent en été austral, c'est-à-dire à l'inverse de nous. Là, c'est au mois de janvier-février. Et en gros, on s'attend pas à ce qu'il y ait beaucoup de neige. Il faut pas qu'il y ait trop de neige. Eux, en fait, doivent nicher avec des cailloux. Donc, ils vont dans des endroits où il n'y a pas de neige. Mais cette année-là, il avait pas mal neigé. C'était le matin où c'était la journée un peu entière où c'était vraiment tout blanc. Là, à ce moment-là, c'est plein de manchots qui remontent vers des crêtes où il y a des endroits qui sont un peu dégagés par le vent, où il y a des cailloux. où ils font leur nid. Et d'ailleurs, les adultes manchots s'offrent un caillou entre eux, comme on offre un caillou dans une bague, mais eux, c'est un caillou. Et c'est comme pour dire qu'ils peuvent construire le nid. C'est dur de retranscrire une colonie immense de manchots qui se déplacent comme ça, en photo, surtout qu'ils n'ont pas peur de nous, donc on va tout près d'eux. Mais là, au bout d'un moment, j'ai pris beaucoup de recul. Je suis à marée basse, il y a une petite marée, donc on peut reculer un peu dans la mer. Et en étant loin, en fait, ça permet d'en montrer le plus possible et de dos, de montrer encore plus leur déplacement.
Page 109, saut de puce.
Là, c'est la petite martre du début qui repasse dans une allée toute blanche, pile au milieu du téléobjectif. À droite, il y a des arbres, à gauche, il y a des arbres, il y a une allée toute blanche. Et elle apparaît, elle disparaît, elle remonte dans la route, elle repart.
Page 111, couronnée.
On retrouve le mâle bouquetin des premières neiges, des premières pages du livre. Il y a quelque chose dans les yeux des bouquetins que j'aime beaucoup, hein, qu'ont d'autres caprins ou ovins, qui est cet œil avec ce rectangle. Je trouve que ça donne une intensité et une sagesse dans le regard. Et j'aimerais bien voir comment ils voient, en fait. On a l'impression qu'ils voient un peu comme dans un panorama.
Page 113, épi.
Là, il y a une petite maison juppée. Parfois, dans la poudreuse, même les petits oiseaux, quand ils se posent, ils sont complètement enfouis et ressortent et remontent. C'est ce qui se passait à ce moment-là. Elle disparaît vraiment quand elle rentre dans la neige en atterrissant. Et elle ressort en battant des ailes un peu. Et elle cherche sous la neige. Même les oiseaux les plus légers, ils sont lourds sur la poudreuse.
Page 114, au revoir.
C'est une photo que j'ai faite en repartant du terrier des renards polaires. J'aime bien cette photo parce qu'il y a un peu un truc d'un animal au loin qui me regarde et de moi qui m'en vais, donc je vais pas le déranger plus que ça, je m'en vais. Ça me rappelle un peu aussi une vision qu'on a dans les films des animaux. Il y a un truc qui est assez serein à ce moment-là. Il me regarde partir.
Page 117, fuselage.
Là, c'était sur la falaise où il y a le goéland et c'est une mouette tridactyle qui décolle. Il y a quelque chose d'incroyable dans les mouettes en vol. Ça me rappelle d'ailleurs les espèces de trucs qu'on fait en bois avec des ficelles et qui pendent dans les salons avec des goélands ou des mouettes. On dirait que c'est du bois, la structure, ou des hélices. Il y a quelque chose chez les oiseaux qu'on compare à plein d'objets de la vie ou même des avions, mais... À chaque fois, en fait, ça vient de l'esthétique de l'oiseau dont on s'est inspiré à chaque fois. Et c'est le vent qui crée ça, c'est l'aérodynamisme, la réalité, quoi.
Page 119, migration.
Là, il y a trois bernaches, des bernaches nonnettes, qui volent au-dessus d'un paysage enneigé. On a l'impression que la forme de leur vol reprend les formes des collines. Ça ressemble à des petits coups de pinceau qu'on aurait fait un peu maladroitement sur une aquarelle pour faire des oiseaux. C'est pris depuis un tout petit bateau coincé au bord de la glace la nuit. Genre il est minuit, mais c'est le soleil de minuit. Et il y a le capitaine qui dort, il y a mon camarade Florian qui dort. On cherche des ours polaires et moi je jumelle toute la nuit en essayant de voir des ours polaires. Un ours polaire qu'on suit, une femelle. Et là, je faisais des photos de cette montagne. J'étais épuisé. Je voulais aller me coucher, puis d'un coup, il y avait des oies qui passaient, parfois trop haut, parfois trop bas, et je visais toujours le même endroit, tout blanc. Et à un moment, il y a ces trois-là qui sont passés, j'ai fait une rafale, et je suis allé me coucher, et je me souviens, le matin, en me réveillant, enfin, il n'y a pas vraiment de matin ni de soir, mais quelques heures après, en me réveillant, en buvant le café, ça m'est réapparu à la tête, je fais « Ah, mais j'ai fait une photo !» Et j'ai décrit la photo, et je l'ai montrée sur mon appareil. Elle s'était affichée dans ma tête quelques heures après. Voilà, le livre est fini. J'étais trop content de partager ça avec vous. Ça m'a rappelé plein de souvenirs de voir chacune de ces photos. J'espère que vous avez ressenti un peu ces émotions que j'ai eues. Mais surtout que ça vous donnera envie à vous d'aller dans la neige et de ressentir à votre tour la beauté d'être dehors dans ce monde tout blanc. Et voilà, vous pouvez trouver mon livre sur mon site qui s'appelle jeremygillette.fr.